Joris Karl Huysmans, En ménage. Leurs cigares charbonnaient et puaient comme des fumerons. Tout en rattachant sa culotte qui s'était déboutonnée, Cyprien s'écria « Restez pendant 2 heures dans un coin, regardez les pantins qui sautent, salir des gants et poisser des verres, se tenir constamment sur ses gardes, s'échapper lorsqu'à l'affût du gibier dansant, la maîtresse de maison braconne au hasard des pièces. Si tu appelles ça, malgré l'habitude que tu en peux avoir depuis que l'on t'a marié, des choses agréables, eh bien, tu n'es pas difficile. » André haussa les épaules et, crachant le jus de tabac qui lui poivrait la bouche, dit simplement « Pouf, aussi fait !» Il y eut un instant de silence. Ils marchaient lentement, côte à côte, quand minuit sonna. Deux horloges entremêlaient leurs coups. L'une, au loin, vibrait doucement, en retard d'une seconde sur l'autre. La plus proche découpait nettement, presque gaiement, son heure. La rue que les deux jeunes gens suivaient était déserte, et leurs pas retentissaient avec un bruit clair sur le trottoir. Tantôt leurs ombres se brisaient le long des boutiques fermées, tantôt les précédaient ou les suivaient, étalés à plat sur les dalles, pâles à certains moments, foncés à d'autres. Souvent elles s'enchevêtraient, se confondaient, s'unissaient les épaules, ne ferment plus qu'un tronc ramifié de bras et de jambes, surmonté de deux têtes, et parfois elles s'isolaient, se ramassaient sous leurs pieds, ou s'allongeaient démesurément et se décapitaient dans le renfoncement des portes. Il y avait dans le ciel comme un éboulement de talus noirs. Au-dessus des maisons dont les toits les tranchaient durement, de grands nuages roulaient ainsi que des fumées d'usine. Puis dans ces blocs immenses de nuées, d'énormes brèches s'ouvraient et des pans de ciel étoilés de feu blanc scintillaient, éteint bientôt par le voile opaque des nuées rampantes. Éclairés par des becs de gaz allumés de loin en loin, des murs frappaient des coups de rue dans l'ombre. Le trottoir était sec, sillonné de rigoles par places, et la soudure de ses dalles se détachait en noir. Près de la chaussée, une bande d'égout, un tapon de fonte quadrillé, percé au milieu de son orbe d'un trou, étincelait à certaines arêtes plus aiguisées par le frottement des bottes. Des épaves de cuisine, des trognons de légumes et des morceaux d'affiches s'empuraient dans une flaque. Un rat se faufilait dans le tuyau d'une gargouille. Lorsqu'André et Cyprien eurent atteint le bout de cette rue et qu'ils arrivèrent dans une autre, vivante encore et plus éclairée, la demi tintait. Un marchand de vin s'apprêtait à fermer ses vitres. Au fond de la boutique, dans une salle cloisonnée de carreaux dépolis, un garçon courait un billard et essuyait avec un torchon les marques de craie laissées près des bandes. Un autre, dans la première pièce, vu de dos, l'échine courbée, le cou et les reins remuant avec le dandinement d'un volatile, rinçait des bouteilles au-dessus d'un cuveau. Un troisième charroyait 2 moitiés de tonnes plantées de lauriers roses, et 2 ronds sales marquaient sur le trottoir la place où elles étaient mises. Le patron se préparait à laver à grande eau son seuil. Un baquet entre les jambes, il bâillait, s'étirant, les bras en l'air, les poings fermés. Et derrière lui, sa femme, le rabe aplati sur une banquette, la poitrine écroulée sur le rebord du comptoir, gourmandait les garçons, s'épilait les poils du nez, apurait ses comptes. La rue était presque silencieuse. 2 sergents de ville se promenaient mélancoliques, parlant bas, s'arrêtaient par moments et reprenaient leur marche. Au loin, une équipe de vidangeurs, cinglant les chevaux attelés aux barriques numérotées, aux carriole bondée de tuyaux et de pompes, passa, nauséabonde, dans un sourd roulement. Le bruit devenait plus confus et plus faible. L'on entendit encore le sautillement grêle d'un fiacre qui parut, les feux allumés, le cocher endormi sous son chapeau de cuir bouilli blanc, pareil à un seau de toilette, le menton dans le cou, le fouet au repos, les rosses exténuées, trébuchant, faisant cahoter la guimbarde sur la chaussée. Puis le bruit s'effaça, le vacarme des volets composés s'éteignit, le quartier s'endormait, tout se tut. Cyprien continuait à rognonner dans sa barbe. Il s'exaspérait de plus en plus après la soirée qu'il avait subie. Il attaquait les boissons, les femmes, prétendait que le punch avait été acheté, tout fait chez un épicier, et coupé d'eau pour le désinfecter. Il niait le charme des fillettes tapotant de la musique ou becquetant des glaces. Il se moquait du maître de la maison debout près du piano, chargé d'exécuter des sourires, et reprenait. « Ah, elles sont jolies, les soirées de ton oncle. Une vraie bousculade de salle à bagages. Il n'y a que les gens qui graissent les cartes qui ont le droit de s'asseoir. Et ils sont là, avec des têtes dont les cheveux ont fui, des compresses blanches autour du cou, des ventres enflés, sanglés dans des pantalons tendus, retenant les envois d'une digestion pénible. Et le salon, avec sa tapisserie de vieilles dames qui dorment le long d'un mur, où jacasse le nez sur un verre. Et l'inverse des conversations, la fluée des sonnettes, la pluie sans fin des polkas et des valses. Et tout, cette troupe d'imbéciles qui invitent des robes roses ou blanches à secouer leurs plis. Et les jeunes filles, donc, ces adorables récipients de chair neuve où les vices transvasés des mers se réjouissent, rajeunissent. Ah, ah oui, parlons-en. Il faut les voir quand elles remuent du pilon leur jupe, le mouchoir sur les genoux et la moue au bec, elles sont là, se tortillant sur leurs chaises, échangeant derrière les entrechats de l'éventail des ricochets de niaiseries sordides, chuchotant comme des galopines en classe, s'envolant tout à coup avec l'affreux bavardage des perruches qu'on lâche. Puis elles plongent en des graves révérences, c'est le nez qui se fripe et le dentier qui flambe. C'est des « oui, maman », c'est des « non, ma chère », c'est des « patati », c'est des « patata », c'est des rires futés, des éclats discrets, les jeunes filles. « Oh, je les ai observées ce soir, tiens, les v'là. » Physiquement, un éventaire de gorges pas mûres et d'océans factices. Moralement, une éternelle morte saison d'idées, un fumier de pensées dans une caboche rose. Oui, les v'là, celles qu'on me destine, espérant qu'un jour viendra où, lassé de lire dans mon lit et d'y fumer tranquillement ma pipe, j'accepterai la misère d'un coucher à Dieu, l'insomnie ou le ronflement d'un autre, les coups de coude et les coups de pied, la fatigue des caresses exigées, l'ennui des baisers prévus. André souriait. « Eh bien, mais, dit-il, c'est très simple, alors. » Conséquence de tes théories, la mise en fourrière de toutes les passions, l'apothéose de la fille publique, les cabinets à 3 sous de l'amour et, par-dessus le marché, la glorification de la femme de ménage qui vous chipe à la bougie et le sucre. Oui, c'est amusant d'allumer des paradoxes, mais il est un moment où les feux de Bengale sont mouillés et ratent. On rit plus alors. Je me suis marié parfaitement parce que ce moment-là était venu, parce que j'étais là de manger froid dans une assiette en terre de pipe, le dîner apprêté par la femme de ménage ou la concierge. J'avais des devants de chemise qui bâillaient et perdaient leurs boutons. Des manchettes fatiguées, comme celles que tu as là, tiens. Et j'ai toujours mangé qu'est de mèches à lampe et de mouchoirs propres. Alors l'été, lorsque je sortais le matin et ne rentrais que le soir, Ma chambre était une fournaise, les stores et les rideaux étaient restés baissés à cause du soleil. L'hiver, c'était une glacière sans feu depuis 12 heures. Alors je sentis le besoin de ne plus manger de potage figé, de voir clair quand tombait la nuit, de me moucher dans des linges propres, d'avoir frais ou chaud suivant la saison. Et t'en arriveras là, mon bonhomme. Voyons sincèrement, là, est-ce une vie que d'être comme j'étais, et comme toi tu es encore? Est-ce une vie que d'avoir le cœur perpétuellement barbouillé par les crasses des filles? Est-ce une vie que de désirer une maîtresse lorsqu'on n'en a pas, de s'ennuyer à périr quand on en possède une, d'avoir l'âme à vif quand elle vous lâche, et de s'embêter plus formidablement encore quand une nouvelle vous la remplace? Oh non, par exemple. Bêtise pour bêtise, le mariage vaut mieux. Ça vous affadit les convoitises et émousse les sens, c'est bien, quand ça n'aurait que cet avantage-là. Et puis, mon cher, c'est une caisse d'épargne où l'on se place les soins pour ses vieux jours. C'est le droit de soulager ses rancunes sur le dos d'un autre, de se faire plaindre aux besoins, et aimer parfois. Ah, s'il existait un émétique qui vous fasse rendre toutes les vieilles tendresses qu'on a là-dedans. Certes, ce serait le rêve, mais comme c'est impossible, le plus sage est encore de risquer la chance, de tenter d'être heureux avec une femme qu'on suppose avoir été bien élevée et qu'on croit honnête. Mais diable, je commence à lâcher les tirades comme toi, et avec toutes ces discussions, il est 1h20, je vais te souhaiter le bonsoir et rentrer chez moi. Cyprien ne paraissait guère disposé à gagner son lit. Tu as bien le temps, disait-il, les autres fois lorsque tu vas en soirée et que ta femme n'étant pas grippée t'accompagne. Tu ne reviens jamais de chez les Desablots avant 3 heures, hein? Avoue que tu as eu une fière chance de m'avoir rencontré dans cette salle de chauffe. Je t'ai obligé à prendre la fuite. C'est 3 heures que je t'ai données, alors rends-moi l'une des trois et viens faire un petit tour. Oh, dit André, je t'en donnerais bien 8 ou 10 si j'étais pas aussi fatigué. Je devais aller pour mon roman voir l'effet d'un abattoir au petit jour. J'ai prévenu ma femme qu'elle n'est pas à m'attendre demain avant 11 heures. Mais je renonce malgré tout à la promenade. Je suis moulu, j'ai froid. Et puis il va pleuvoir. Alors, allez, viens nous coucher. Mais Cyprien ne se tenait pas pour battu. Il insistait, appuyant sur la paresse de son ami qui ne parviendrait jamais une autre fois à se lever d'aussi bonne heure. André en convenait. Il le savait parbleu bien, puisqu'il avait justement choisi le jour où, ne se couchant pas, il serait debout dès l'aube. Mais Cyprien débita ses raisonnements en pure perte. Son ami tint bon, continua son chemin et arriva devant sa maison. Là, il vit vibrer le timbre et s'accota au mur, attendant que la porte s'ouvrit, écoutant au loin l'appel aigre de la sonnette, le coup mat du cordon, le craquement du ventail prêt à céder. Le portant avait été inutilement tiré. Alors il lança un carillon qui dansa dans la nuit, et le pêne, lâchant la serrure, claqua. Il serra la main de Cyprien et referma la porte. Il frottait une allumette, se défiant du paillasson, du décrotte-pied qui faisait saillie à la première marche, et il montait rapidement avec l'âme de l'individu qui se rôtit les doigts et ne serait pas fâché de se mettre à l'aise. Il doublait les enjambées, suivant d'une main la rampe, et le mur en volute de l'escalier brillait avec ses jaspures de faux marbre, dans l'ombre à mesure que le vent attisait l'allumette ou l'éteignait presque. À chaque palier, les boutons de cuivre des portes étincelaient, puis aussitôt que la flamme était morte et que le bois se consumait en braise, un point rouge se piquait sur le vernis des murs. Lorsqu'il fut entré dans l'antichambre et qu'il eut pris un bougeoir placé sur un pied-douche, Il s'avança avec précaution, craignant de réveiller sa femme. Il eut beau marcher sur la pointe des pieds, ses bottines craquèrent. Il s'arrêta soudain, étonné, entendant un heurt amorti comme un objet qui tombe sur une chose molle, comme un choc de talons nus sur un tapis. Il pensa que sa femme était plus souffrante ou qu'elle se relevait pour chercher un mouchoir ou satisfaire un besoin autre, mais une rumeur effarée, un chuchotement de paroles suffoquées par l'angoisse, des mots prononcés presque hauts, puis balbutiés avec un ton de prière, d'autres à peine distincts, comme mâchés par des dents qui se serrent, lui arrivèrent. Il appréhenda un malheur, franchit le salon, s'élança dans la chambre, vit près du lit défait un homme en chemise, affolé, tournant, culbutant les meubles, tirant à lui un fauteuil pour s'abriter, empêché par une chaise placée derrière. La femme étrangla un cri, se renversa stupide, les yeux agrandis, hagarde. André étouffa, nom de Dieu. On sentait dans la pièce une déroute effroyable, une panique immense. L'homme ne bougeait, respirant à peine. La femme frissonnait, éperdue, appuyée sur le bord du lit, les jambes et les seins à l'air, la main droite pendante, la gauche cramponnée au drap. Tous restaient immobiles, muets. Alors, dans le grand silence de la chambre, la main d'André, tenant la bougie, trembla, et la bobèche, tapant la plateforme de cuivre, tinta doucement. Ce léger bruit sembla secouer la stupeur accablée de la femme. Elle eut un long soupir, voulut parler, chercha sa salive, n'en trouva pas, remonta sa chemise, cacha sa gorge. André avait déposé le flambeau sur une table. Il semblait indécis, se promenait de long en large, s'arrêtait, crispé, blême, dévisageant sa femme. Le bruit plus vif, plus amorti de ses pas, selon qu'il se rapprochait, marchant sur le plancher ou s'éloignait, foulant un tapis, s'entendait seul. Un filet de vent venait d'une croisée, poussée contre et faisait fignoler et couler la bougie. Une azalée dans un cache-pot de faïence se déflorait, éparpillant goutte à goutte sur les bouquets réséda d'une carpette, ses pétales tachés de sang. Un jupon jeté sur le dos d'une chaise descendit lentement, s'étala ainsi qu'une mare blanche sur le parquet. Une odeur pénétrante de femme dont les bras sont nus emplissait la pièce. Une bouffée très fine de frangipane vint s'y mêler, évoquant les soins discrets des toilettes galantes, les luxes perdus depuis le mariage et retrouvés maintenant, des eaux teintées d'opale qui baignent les bleus réseaux imprimés dans le fond des larges cuvettes. Lorsqu'André interrompait sa marche, la pendule jasait clairement, jetant son tic-tac monotone, coupé net par la plainte d'un meuble, par la corde d'un store qui frappait aux vitres. André fit un pas, s'arrêta devant sa femme. Il s'efforçait d'être calme, mais les mots saccadaient, passant par sa voix tremblée. « 1 heure du matin, dit-il, il est temps que, pour sauver les apparences, monsieur se rhabille et parte. » Le monsieur eut un geste vague. La femme plia encore les épaules. Sa main s'ouvrit et le drap qu'elle pressait se détendit doucement comme un linge humide. « Allons, monsieur, poursuivit André, il faut en finir. Je n'ai nul intérêt, moi, à contempler vos formes. » La situation est suffisamment ridicule, mettons-y un terme. « Ah, quand on songe, » reprit-il. « Il est vrai qu'à force d'avoir étudié les femmes et d'avoir acquis pour elles un sacré mépris, on finit par où des nigauds commencent. Mais je parle et le temps s'écoule. Ah, pour Dieu, voilà assez. Vous êtes prêts, n'est-ce pas ?» Le jeune homme enfilait son pantalon et sa chemise, mal tassée, faisait dans sa culotte des bosses derrière. Il boutonna son gilet à peine, mit ses bottines et son habit. Une fois vêtu, il reprit un peu d'assurance. Il regarda le mari en face, annonça quelques mots sans suite et tâta dans la poche de sa redingote. « Vous cherchez une carte de visite, » dit André. « On ne la trouve jamais lorsqu'on en a besoin. C'est comme un fait exprès. Mais peu importe, votre nom de famille m'est indifférent. Quant à votre prénom, ma femme doit le connaître, et au cas où elle ignorerait votre adresse, vous pourrez la lui envoyer demain pour qu'elle aille vous rejoindre si bon lui semble. Bon, maintenant, prenez votre chapeau et partons. » Le jeune homme se défiait malgré tout, craignant une embûche. Il appréhendait que le mari ne l'obligeât à passer devant. La perspective de s'enfoncer à tâtons dans le noir lui souriait peu. Mais André le précéda, la bougie au poing. Il descendait lentement, n'échangeant plus une parole. Arrivé au bas de l'escalier, près des pommes en verre de la rampe, André se retourna et, haussant le chandelier, dit simplement « Prenez garde, monsieur, il y a une marche. » Et il ajouta « Je vous préviens pour que vous ne tombiez pas, ça ferait du bruit. » Il frappa au carreau de la concierge, la porte s'ouvrit et il la referma sur le dos du jeune homme qui eut un long soupir de soulagement et murmura « Christi, j'ai eu une fière chance de m'en être tiré comme cela. » Chapitre 2. Oui, Cyprien avait raison. C'est folie qu'en étant pas riche, on peut néanmoins, en se gênant, manger chez soi et être presque servi, plutôt que d'aller contracter mariage. Il aurait dû laisser ses tracas-là aux pauvres. En t'isolant des bûches les soirs d'hiver, alors qu'engourdi dans son fauteuil, il hésitait à se lever pour s'étendre dans un lit froid, André se l'était répété souvent, se tâtant, se débattant contre l'idée qui lui revenait chaque fois qu'il avait passé la soirée seul, en finira jamais avec sa vie de garçon, troublée par des appétences charnelles, par des besoins de câlinerie et de tendresse. Il n'aimait point les enfants, ne jugeait pas qu'il fût utile d'en procréer, craignait, en vertu de cet axiome que ce sont les gens pas riches qui en ont le plus, d'engrosser de 10 ans 10 mois sa femme et cependant les misérables ennuis des ménages mal faits, des concierges qui sont pochards et ne retournent pas le lit, l'avait jeté, comme il l'avouait à Cyprien, sur les gluaux d'une famille en quête d'un gendre. Il avait épousé sa femme sans entrain, sans joie. Quand il l'avait connue, elle était comme la plupart des jeunes filles, insignifiante. Elle jouait du piano, copiait des bouchées, des greuses sur des fonds d'assiette. Possédait avec cela une grâce apprêtée chez elle, une distinction pincée au dehors. Somme toute, elle pouvait être sortie sans honte, gardée chez soi, sans lassitude. C'est égal, il avait été bête. Elle avait des yeux noirs allumés dans le fond, les yeux d'une maîtresse qui jadis avait prodigalement trompé. Il aurait dû se défier, savoir que lorsqu'on est décidé à coller son nom à celui d'une autre, sous le grillage d'une mairie, on devrait avoir pu jauger la parfaite capacité de sottise ou la profonde inertie des sens de celle qu'on épouse. Et debout, les poings serrés, il souffrait, pensant à sa femme, s'étonnant de n'avoir pas découvert dans certains plis de visage, dans certains mots, les tempêtes qui couvaient sous son calme froid. Maintenant, il hésitait sur le parti qu'il fallait prendre. J'ai évité un scandale dans la maison, c'était l'important, disait-il. Si je retourne près de ma femme, je vais subir des averses de girles et de pleurs. Et je serais peut-être encore assez naïf dans ce cas-là pour lui pardonner. Ou bien je devrais écouter d'invraisemblables excuses ou des insolences. Je ne pourrais faire autrement alors que de l'étrangler. Les deux rôles sont également stupides. D'un autre côté, ne rien dire, rester, c'est un enfer. C'est le feu aux poudres à un moment donné, c'est un jour à table devant une bonne, la révélation forcée de nos haines, c'est la réunion le lendemain de tout le quartier devisant sur mes malheurs, c'est le colportage du boucher chez la fruitière, des événements de cette nuit, dénaturés et grossis. Et il revenait, au milieu de ses hésitations, à ce parti qui lui était apparu le premier, alors que, délivré du monsieur, il remontait l'escalier, reprendre son existence d'autrefois, rayer 2 années de sa vie, s'efforcer d'oublier dans le travail des souvenirs irritants que lui laisserait sa femme. Il s'affermissait de plus en plus dans cette résolution. Il eut un geste brusque, mit de l'ordre dans ses papiers, déchira les uns, consuma les autres, et il demeurait mélancolique, s'intéressant pendant une seconde aux étincelles qui couraient dans la cheminée, au vent qui faisait tressaillir les cendres et soulevait la main noire et rouge des paperasses brûlées. Puis il soupirait, ficelait des livres, fouillonnait dans une commode, mettait du linge en paquet sur un fauteuil. Il lui fallut chercher sa valise, serrée dans un cabinet de débarras près de la cuisine, et doucement il poussa la porte, prêtant l'oreille, n'entendant aucun bruit, ayant presque peur de rencontrer sa femme. Quand il entra dans la cuisine, il resta stupide devant les reliefs du repas. Les 2 assiettes avec les fourchettes et les couteaux jetés dessus en croix les murs. Il revit devant ses vaisselles torchées, devant ses 2 verres où ils avaient bu, le tête-à-tête du dernier dîner, l'adorable mouvement de sa femme, relevant sa manche et servant la sauce, toute une intimité d'intérieur à l'aise dont il n'avait jamais soupçonné la fin. Il décrocha sa valise et, amolli, troublé, il retourna chez lui, écoutant, espérant presque un hoquet, un cri qui le forcerait à s'occuper de sa femme, à courir près d'elle. Un immense silence emplissait la maison. André rentra dans son cabinet. Un irrémédiable désordre s'étalait dans cette pièce. Les tiroirs, à moitié tirés d'une commode, regorgeaient de tricots et de linges. Des chemises, se confondant les unes avec les autres, tendaient leurs manches, écartaient leurs cols, gisaient la tête en bas, pliées comme sur une charnière, éplorées, grotesques avec leurs bras et leur ventre vide, leur poitrine ouverte et creusée jusqu'au dos. Des cravates rayaient d'un mince filet noir la flanelle jaune des gilets, des gants allongeaient leurs doigts glacés, couleur de poussière et de mauve, sur la toile bise des caleçons, sur le blanc crémeux des foulards de soie. La bougie descendait jusqu'à sa collerette de verre. Les tiroirs du bureau, mal repoussés, cassaient en 2 des papiers et des élastiques qui avaient enveloppé les liasses, étaient tombés sur le parquet et avaient repris leur forme ronde. André écarta les rideaux. Les stores étaient baissés. La lueur du petit jour, filtrant au travers des lames, couchait à d'égales distances des barres de bleu pâle sur le plancher, reculait dans la glace les murs, éveillait à certains points la dorure des cadres, rendait d'un blanc plus cru la mousseline pendue aux fenêtres, tout le blanc azuré du linge. André regarda en face de lui les vitres closes des maisons, l'immobilité des rideaux placés derrière. Le silence ininterrompu de la cour lui parut lugubre. Il revint dans la pièce, demeura mal à l'aise devant cette mare de lumière qui s'épandait de plus en plus, triste comme un lever de lune, bleuissante et blanchie comme elle. Il se vit dans la glace, les joues hâves et les yeux culottés de bistre. Il apprêta sa malle à la hâte, et la tenant d'une main, il ferma de l'autre son cabinet, et arrivé dans l'antichambre, il tourna le loquet de la porte. Là, il se sentit défaillir. Le regret qu'il avait poigné dans la cuisine l'étreignit de nouveau, lui fit presque jaillir des larmes des yeux. Le bien-être qu'il quittait ainsi tout à coup le navra. Cette porte sur l'escalier lui ouvrit un horizon de misère sans bornes. Il évoqua sur ce palier l'abandon de tout un avenir de gaieté et de paix, la vie de ses 18 ans qu'il fallait revivre à 30 ans passés, la confiance et l'espoir en moins, l'estomac délabré et des besoins de confortables en plus. La porte remuait doucement. Lui, la malle à ses pieds, restait immobile, envahi par des lâchetés croissantes. Ah, si sa femme s'était précipitée, les cheveux au vent, en chemise, lui avait enlacé le cou, fermé la bouche avec les mains, étouffé seulement un semblant de larmes. Il aurait jeté d'un coup de pied sa malle. Il eut subitement une lucidité d'esprit. Il se figura, après cette scène ridicule, les réflexions qui lui seraient venues. Il se représenta toutes les hontes du cocuage subi, les défiances qui l'assailleraient maintenant au moindre mot. Il eut une vision des aigreurs qui s'échangeraient au-dessus d'une table, des raccommodements convenus tacitement, d'avance, dans les oreillers, des embarras de certains tête-à-tête, des maladresses innocemment lâchées, des rancunes qui en résulteraient pour l'un comme pour l'autre. « Même je deviens idiot à la fin, dit-il. J'ai le choix entre aller gifler ma femme ou ficher mon camp. » Il empoigna sa malle, descendit, franchit la porte cochère entrebâillée et s'achemina lentement vers le logis de Cyprien. L'air, la marche lui faisaient du bien. Il enleva son chapeau pour voir plus frais et un petit vent but les gouttes de sueur qui lui perlaient aux tempes. Il n'avait plus maintenant qu'une vague perception, qu'un souvenir confus des incidents de cette nuit. Il déposa sa valise sur le trottoir, la reprit, ayant simplement hâte d'arriver parce qu'elle était lourde. Il dut s'arrêter de nouveau, la changer de main, se reposer encore. Les rues étaient désertes. Le ciel semblait taché de pâté d'encre et barbouillé de cendres pour les faire sécher. Au loin, une balayeuse, la tête enfoncée dans une marmotte, les sabots bourrés de paille, s'appuyait sur le manche d'une pelle. À ses côtés, un boueux, la pipe au bec et la goutte au nez, ratissait un monceau d'ordures. Un ouvrier passa, le paletot jeté sur la blouse, l'épaule gauche plus haute que l'épaule droite, par suite de l'habitude qu'ont la plupart des gens du peuple de porter toujours leurs outils et leurs pains sous le même bras. Une voiture de laitier lancée à fond de train, feu sur les pavés. André se servit de sa malle comme d'un siège, regarda si par hasard un fiacre ne viendrait point. Réfléchit qu'à Paris, il est presque impossible, lorsqu'on n'habite pas près d'une gare, de trouver une voiture à 5h30 du matin. Et se décidant enfin à se lever, se roidissant contre la fatigue, Il emballa d'un coup la trotte, monta chez Cyprien, frappa, refrappa, jusqu'à ce qu'un claquement de savate devint distinct. Cyprien entrebâilla la porte, demeura stupéfait, bredouilla quelques mots, courut se remettre sous les couvertures, et là, se frottant les yeux, il balbutia comment, c'est toi ? André tomba dans un fauteuil. Peux-tu me donner asile pendant quelques jours, jusqu'à ce que j'aie arrêté une chambre ? Dit-il. L'autre fit signe que oui, et se frottant les cheveux, complètement ahuri, il s'écria « Mais qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu ?» Alors André se leva. « Mais il y a que j'ai surpris un homme chez ma femme cette nuit, comprends-tu ?» Cyprien eut un sursaut, laissa tomber ses bras, et assis comme il était sur son séant, il se tourna tout d'une pièce du côté d'André. « Pas possible !» dit-il. Mais son ami le regardait en hochant la tête. Ils se dévisagèrent sans souffler mot. « Tu as tué le monsieur ?» demanda enfin Cyprien. « Non. Ben, »« Mais tu as bien fait. »« Et ta femme non plus, j'espère. »« Oh non, pas davantage. »« Allons, tant mieux. » « C'est un ami, le monsieur que tu as surpris ?»« Non, c'est un monsieur que je ne connais pas. »« C'est moins ennuyeux, » murmura Cyprien. Ils se turent. André, qui était, comme bien des gens nerveux, sujet pour la moindre contrariété à d'horribles douleurs d'entrailles, quitta la chambre. « Elle est bien bonne, » se dit Cyprien. Et il sourit un peu, pensa que cette aventure ne contrariait en aucune façon sa manière de voir. Puis il s'indigna tout de même, trouva bête qu'un homme fort se fût ainsi fait duper par une femme qu'il considérait comme une pimbèche et comme une niaise. Quand son ami revint, le visage décomposé et la main au ventre, il sauta du lit, lui offrit un verre de rhum et l'écouta raconter point par point la scène. « Bon pauvre vieux, s'écria-t-il, ça nous change guère. Après les maîtresses qui nous tuent Lupinet, c'est maintenant les légitimes. Ah, oh, je sais bien, c'est bien plus embêtant, mais quoi, ça ne prouve qu'une chose. C'est qu'amour de distinction et amour de rebut, c'est kiff-kiff, ça se lézarde et ça croule. Va, faut en prendre son parti, mon cher. Dans la vie, on n'a rien à soi. » On loge ses affections dans des meubles, jamais dans une chambre qui vous appartienne. Dame, oui, j'en conviens, c'est dur. On voudrait avoir son petit lopin de bonheur et en être seul propriétaire. Ah, mon ami, ce sont des rêves de paysans qu'on ne réalise pas. Mais voyons comment allons-nous nous organiser. Oh, le plus simple serait de louer un lit. Nous nous installerions là, près de la fenêtre. Tu déplierais des lames du paravent et tu serais comme chez toi. Hein? Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, la première chose à faire, dit lentement André, c'est de chercher un petit logement. Je reprendrai les meubles qui n'appartiennent à mes bibelots de garçon. Ah, il faudra aussi que je retrouve mon ancienne femme de ménage, Mélanie. J'ignore son adresse, par exemple, mais puisqu'elle passait son temps chez une blanchisseuse de la rue des Quatre Vents, je saurais facilement où elle demeure. Je te demanderai seulement un service. Je ne veux plus remettre les pieds chez moi. J'établirai une liste des objets à garder. Je retiendrai aujourd'hui ma voiture et tu iras toi-même chez moi surveiller l'emballage des bibelots et des meubles. Et il poursuivit en se frottant fiévreusement les mains. « Oh, que j'ai donc hâte que tout cela soit terminé. J'ai encore de la veine tout de même. C'est le demi-terme. Je louerai facilement une chambre. Allons, voilà qui est décidé. Je vais recommencer ma vie de garçon. Basse, au fond, tu es dans l'oreille. Je n'étais malheureux que par ma faute. Je m'étais forgé un tas d'idées. La solitude, le manque de baisers propres, le silence, le soir dans le lit, le réveil sans gaminade, enfin tout un idéal de fleuriste. C'est égal, oh, cela finit tout de même bêtement quand on y songe. Il se tut, puis il pensa qu'il serait convenable de s'intéresser aux travaux de son hôte. Il regarda un tableau placé sur un chevalet. « Eh bien, mais ça va !» s'écria-t-il. Puis il écouta, sans les entendre, les explications de son ami. Et obsédé de nouveau par son malheur, il reprit. « C'est étonnant, oh, si tu l'avais vue il y a 15 jours, quand elle a flanqué congé à la bonne qui découchait. Elle est sévère, ma femme. Moi, je faisais remarquer que cette fille cuisinait bien, ne rechignait devant aucun ouvrage, qu'il était absurde de la renvoyer pour des escapades qui, au demeurant, ne nous gênaient pas. Ma femme m'a toisé. Oh, j'étais évidemment pour elle un homme sans mère. Alors je me suis tue. La bonne a reçu son compte. Cela a bien valu, ajouta-t-il plus bas. Nous n'avons pu en engager une autre. De sorte qu'au moins, pour cette nuit... Cyprien lui coupa la parole. Ses vieilles rancunes contre les femmes se réveillaient. « Ah, elles ne sont pas bons enfants, clama-t-il, on leur demanderait pourtant que ça. »« Oui, mais pour être bon enfant, faut avoir été beaucoup roulé, comme toi et moi, par exemple. »« Nous nous estimons heureux quand nos convoitises se bornent à n'être pas satisfaites. » Nous sommes les gens qui nous contentons à peu près. Lorsque nous ne recevons pas de tuiles sur la tête, nous sommes pleins de joie, et c'est miracle pourtant, quand avec un idéal aussi court, il ne nous tombe pas sur la caboche de formidables nions. André l'approuvait d'un geste navré. Si je vidais ma malle, finit-il par dire, nous pourrions ensuite déjeuner. Et je commencerai mes courses. Cyprien opina du bonnet et sortit pour chercher des victuailles. André se mit à déballer son linge. Il ressentait le vague accablé, la brouille de cervelle d'un individu qui, après avoir été presque assommé, reprend connaissance. Il rangea ses chemises sur une table, réunit ses livres, et ils lissaient leur couverture avec la main, dépliaient leurs cornes, défripaient les feuilles froissées par le voyage. « Ah ! En voilà un qui a joliment ennuyé ma femme, » pensait-il. « Quant à celui-là, je ne lui ai même pas prêté. Quel chef-d'œuvre !» Et il se promettait de le lire, se reprochait d'avoir si longtemps négligé son art. Ah bien, elle en avait des mous le soir, lorsqu'il voulait travailler. Et il frissonnait, songeant à cette moue qui ridulait si joliment le coin des lèvres. Il jeta le reste de ses volumes en tas, ne voulant plus voir leurs titres, tentant d'échapper aux souvenirs qui lui revenaient un à un à propos de chaque objet. Sa femme avait touché à tous, raccommoder les uns, acheter les autres, feuilleter tel livre, pourvu tel autre les jours où câlinement elle lui disait « Donne-moi quelque chose à lire. » Prenait un volume, l'ouvrait, le lui rendant, faisait « Pouf, c'est pas amusant. » Il essaya de se soustraire à son ménage, tâcha d'ensevelir le présent, se tendit l'esprit à se rappeler 1000 détails de sa vie de garçon qui pourraient maintenant lui être utiles. Il méditait une réorganisation intérieure, s'ingéniait à éviter d'avance les misères qui se ruent dans les logements sans femmes. Il remuait des décombres de souvenirs, et alors que leur évocation lui souriait, par une évolution presque insensible de pensée, son existence d'homme marié lui sautait devant les yeux et s'établissait là, à demeure. Il se sentait repris de colère furieuse, d'irritant dépit, plus exaspéré peut-être par cette hantise qu'il ne pouvait chasser que par la cause même qui la faisait naître. Puis, comme ces joujoux d'enfant ou une sentinelle, après avoir décrit des courbes sur un plateau, revient forcément à l'endroit d'où elle est partie, sa pensée, après 1000 circuits, s'arrêta net au point exact à la façon dont sa femme l'avait dupé. Son orgueil blessé saigna, sa rage s'accrut. Il s'étonna pendant 1 minute de n'avoir pas étranglé l'amant de sa femme. Cyprien entra chargé de paquets. Ils dressèrent la table. Le peintre attaquait vigoureusement l'assiette assortie, s'enfournait de la hure et des miches de pain et la paix sec. André chipotait, mangeait du bout des dents, s'ingurgitait de grands coups d'eau rougis pour faire couler la viande, mais les morceaux lui restaient dans la gorge. Il repoussa dégoûté l'assiette. « Bon, je peux pas avaler, » dit-il. Le mazagran qu'un cafetier monta le réconforta un peu. Cyprien avait baffré et peinté comme 4. Il se renversait un peu sur sa chaise et éprouvait le bien-être des appétits repus. Il voyait tout en rose pour l'instant, et chiffonnant sa serviette, il répétait de temps à autre en regardant son camarade « Tiens, ce pauvre vieux !» Et il regrettait de ne pouvoir dîner avec lui. Il était par extraordinaire de corvée le soir, un dîner de famille, un de ces dîners où l'on se réunit une fois l'an pour débiter d'ineptes gaudrioles et choquer des verres. André se taisait. D'un côté, il préférait s'isoler. Cyprien le gênait. Il commençait à oublier la situation cruelle de son ami, ne comprenait pas que, possédé par une idée fixe, André ne pouvait admettre que lui, Cyprien, ne fût pas également contrit. Avec l'égoïsme des gens qui souffrent, André pensait en effet que le peintre se désintéressait trop des douleurs d'autrui. Les encouragements que Cyprien lui avait jetés comme un morceau de sucre pour le faire tenir en place. « Du courage, ma vieille, ce ne sera rien. Tu travailleras mieux maintenant que tu es libre. À quoi cela te sert-il de te désoler puisque tu n'y peux rien ?» l'exaspérait. Il eût voulu que Cyprien marchât sur la pointe des pieds, comme dans ces chambres de malades où l'on fortifie le patient avec un simple regard et une poignée de main. Malheureusement, Cyprien était incapable d'apaiser un chagrin quelconque. Comme la plupart des célibataires, il ne jugeait point d'ailleurs que les misères conjugales des autres méritassent une pitié bien longue. Il admettait plus facilement qu'un monsieur abandonné par une maîtresse se désespéra et fut plaint qu'un mari trompé par sa femme. Celui-là devait s'y attendre. Pourquoi s'était-il marié ? Il haïssait d'ailleurs la bourgeoise dont la corruption endimanchée l'horripilait. Il n'avait d'indulgence que pour les filles qu'il déclarait plus franches dans leurs vices, moins prétentieuses dans leurs bêtises. André ne fut donc point fâché d'être laissé seul, mais d'un autre côté, la solitude l'effrayait. Il se savait assailli à l'avance par l'obsession de son infortune. Puis il était mal à l'aise, énervé, souffrant. Ils se décidèrent enfin à quitter la place. André prit son chapeau et, mu par cette idée superstitieuse qui ne pourrait étouffer tout à fait les souvenirs cuisants, revivre réellement sa vie d'autrefois qu'en retournant habiter son ancien quartier, il s'achemina lentement au travers des rues qui relient la rue Royale à la rue Cambacérès. Alors commença pour lui une longue pérégrination à la recherche des locaux vides. Il marcha, le nez en l'air, en déchiffrant des écriteaux. Il tourna pendant des heures le bec de canne des loges, reçut en plein visage l'âcre bouffée des mirotons, l'odeur du cuir qu'on rafistole, la senteur de roussi des fers qui repassent le drap. Dans certaines maisons, la loge était fermée. Il tapait au carreau, allait dans la cour en quête du concierge, ne l'apercevait pas, s'adressait à une vieille femme qui, rentrant dans le vestibule d'où elle sortait, criait du bas de l'escalier « Monsieur Baptiste, on vous demande !» Une voix arrivait d'en haut « Me v'là !» Et de lointains coups de plus beau s'approchaient et descendaient en même temps qu'un bruit lourd de bottes. Il ne découvrait aucun logis acceptable dans les prix doux. Il ne trouvait que des appartements somptueux, très chers, et des portiers hautains, des caves insalubres, tapissées d'ignobles papiers, pavés de carreaux rouges, ornés de cheminées en plâtre peint. Il écoutait le boniment du montreur qui essayait d'enfoncer le client, affirmait que des familles entières avaient vécu en bonne santé dans ces cambuses, ne les avaient quittées que malgré elles et les regrettaient encore. André était courbaturé et moulu. Il s'attardait dans les pièces où restaient des chaises, s'asseyait, les mains sur les genoux, les yeux vagues, entendait le concierge, debout, remuant des clés dans les poches de son tablier bleu, battant sa petite réclame, amorçant le denier à Dieu. « Oh, mais c'est une maison tranquille ici, oh, vous savez, chacun est chez soi, pas d'ennui, pas de cancan. » Et il citait les gens du dessous, essayait pour la circonstance de laver leur linge sale, parler des autres, énumérer les professions graves, semblait pris de pudeur lorsqu'il n'énonçait pas des titres ronflants, glissait vite sur le nom de certains de ses locataires, ne les faisait suivre d'aucune mention, puis il ouvrait la fenêtre du logement, toute grande, invitait André à s'approcher, lui vantait le point de vue de la cour, transformé en un jardin de manzingue. Et André se levait, se penchait sur la balustrade, assistait au fond d'un puisard à la lente agonie d'un géranium. Il contemplait les quatre murs, blanchis au lait chaud, le carré du ciel sombre, le fond dégoûtant du trou. Le portier disait « C'est gentil, hein ?» montra des boules de couleur accrochées dans du lierre, des plates-bandes bordées de buis et plantées de bâtons noirs représentant des rosiers qui avaient perdu leur sève. Et André rentrait dans la chambre, recevait sur la tête une nouvelle douche, finissait par s'enfuir, affirmant qu'il reviendrait, donnerait une réponse. Il avait parcouru déjà plusieurs rues, escaladé des 5 étages, enfilé des rez-de-chaussée, sondé des milliers de placards, relevé toutes les trappes des cheminées, apprécié les incommodités de nombre de cabinets et de cuisines. Quand il visita rue Cambacérès, dans une maison de bonne apparence, un petit logement composé de 2 pièces minuscules, d'une salle à manger moyenne, d'un cabinet de toilette grand comme un torchon, d'une cuisine et de lieux passables. Il y avait aussi une terrasse et le tout valait 1 000 francs. Ce n'était pas cher pour le quartier, puis le local était libre et pouvait être occupé de suite. André l'arrêta. Une certaine quiétude lui vint maintenant qu'il s'était assuré un gîte. Il se rendit à une succursale de la maison Bailly, située dans la même rue, et retint une voiture de déménagement pour le surlendemain. Il avait faim. La fatigue et la marche avaient comme émoussé l'aigu de ses ennuis. Il était presque joyeux lorsqu'il avisa un petit mastroquet derrière la vitrine duquel se tuméfiait un melon grandi dans de l'alcool. Des rangées de bouteilles avec des capsules de plomb sur la tête et des étoiles allumées au milieu du ventre formaient le demi-cercle, enveloppait deux étages de bonbons meurtris, des vinaigrettes persillées de bœuf froid, des ratas figés aux navets, des toffets avec des plaques noires de brûlé, godant sur leur bourbe jaune. Dans une gamelle de fer, un riz au lait entamé croulait. Des œufs, couleur de vin, remplissaient un saladier à fleurs. Un lapin, ouvert sur un plat, les quatre pattes en l'air, étalait le violet visqueux de son foie sur sa carcasse lavée de vermillon très pâle. Une muraille de bois emmanchait les uns dans les autres, une tour de soucoupe bordée de bleu s'élevait, précédée devant les carreaux de la devanture, d'un ancien bocal de plumes à l'eau-de-vie, plein d'eau où des glaïeuls affalés laissaient tremper leurs tiges. André s'assit devant une table vide. En attendant qu'on lui apportât la soupe, il regarda la salle. C'était une pièce assez grande, ornée de becs de gaz et d'abat-jour verts, d'un poêle de fonte, d'un comptoir peint en faux acajou, à filets ombrés, garni d'un vase de verre bleu plein de fleurs, de mesures d'étain posées en flûte de pan, d'un tronc en nickel, d'un chat bâillant et d'une écritoire. Derrière ce meuble, des rayons s'étageaient, supportant des litres décachetés, une théière en porcelaine, des tasses blanches avec trois pieds et une anse écarlate, et des initiales salement dédorées au centre. Une glace encastrée au milieu des rayons reflétait le haut du bouquet, marinant dans le vase bleu, le tuyau zigzagant du poêle, trois patères inoccupées, fichées au mur, la doublure éraillée d'un paletot, le luisant d'un chapeau gras. Et sur une petite table, dans un coin, un fromage de Bourgogne, le ventre entaillé, s'effondrait sous l'attaque d'un millier de mouches. Près des casiers où se tassaient des serviettes munies de ronds, une huche contenait des pains grêles et mous qui touchaient presque à une cage accrochée au plafond. Cette cage était vide par suite d'un décès et une sèche l'habitait seule, pendue au bout d'un fil. Cet établissement tenait de l'auberge de campagne et de la crèmerie du Paris pauvre. Le patron, en manche de chemise, l'estomac en avant comme une bosse, le nez en trompette, se gobergeait, la serviette au bras, traînant dans une boue de crachat et de sable des pantoufles tapissées de dominos et de jeux de cartes. Des bruits de vaisselle et de chaudron, des chants de friture et des plaintes de toux s'échappaient de la porte toujours battante de la cuisine. Des grésillements furieux de viande sautée dans la poêle, de beefsteaks jutant sur un gris, de subites vapeurs rouges, de fétides fumées bleues arrivaient par moments. De sourdes disputes, des voix brèves de patrons ahurissant leurs domestiques s'entendaient à toute minute. Une servante, fluette, pâle, la mine douloureuse et idiote, vacillait, minée par d'inépuisables fleurs blanches. Une autre trimbalait de la cuisine à l'office et de l'office à la cuisine des piles d'assiettes, avait l'air somnambulesque, ne semblait pas se rendre compte de l'importance de la tâche qui lui était confiée. André commençait à s'impatienter, on ne lui apportait toujours pas sa soupe. Il était las de regarder ces gens qui l'entouraient. Tous se connaissaient. Il était tombé dans une sorte de pension de famille, dans un râtelier où s'empiffrait un monde étrange. Il y avait des groupes distingués, causant à mi-voix, étouffant leur rire derrière leurs serviettes. Il y en avait des hableurs, des bagoulants tout haut, des plaisanteries massives, accaparant l'attention avec leurs ébats. Très familier avec ses clients, le patron se rigolait, criant « Ah ah, elle est bien bonne !» hurlait avec calme soudain « Un frigado au jus, un filet sauce tomate, hein ?» André avalait le vermicelle qu'on s'était enfin décidé à lui servir. À sa gauche, deux commères piochaient dans un plat de tripes, puisaient dans une queue de rat et vidaient des verres. Les coudes sur la table, elles se faisaient de mutuelles salamalecs pour une cuillerée de sauce, causaient comme de bonnes mamans, débinaient une voisine, plaignaient leur concierge dont le ventre avait enflé en mangeant des moules. André commençait à se ragaillardir, mais une coterie installée près du poêle éteignait avec son vacarme le brouhaha des autres groupes. Un coiffeur pérorait et mettait les vérités de cette force. Quand on a de l'argent, on vous tire des coups de chapeau, sans ça. Quand on a, comme moi, placé tout son saint frusquin dans des fonds qui ne rapportent pas, on vous chante « Marie, trempe ton pain, Marie, trempe ton pain !» Du reste, toutes les fois que j'ai acheté des valeurs, elles baissaient le lendemain. Je pourrais pas me l'interdire d'ailleurs, il me faut des émotions. Et les camarades se délectaient, lui versaient à boire, et lui, avec ses yeux capotés, son air de glorieux crétin, reprenait « Moi, j'aime le sexe. Pour que je puisse m'en passer, il faudrait que je sois comme le merle qui siffle après ses enfants. » Et faisant par un calembour allusion à son métier, il ajouta « Je ne serai toujours pas un merle vif, je serai un merle lent. » Des fusées de joie partirent, d'incompréhensibles gaietés saluèrent cette bordée de sottises. André avait hâte de prendre son chapeau, de fuir, mais le service ne se pressait guère. Il avait réduit de moitié un rosbif très dur et abandonné le reste. Il réclamait maintenant une oseille qui n'arrivait point. Il demanda au patron, qui jubilait d'une façon stupide, s'il avait un journal. Le siècle était en main, alors on lui apporta les petites affiches. Il essaya de s'absorber dans cette lecture, de s'isoler de la joie de ses tables, de se boucher les oreilles aux jacasseries stridentes de ces imbéciles. Il les entendait quand même. Il se força à lire trois pages de cette feuille, s'arrêta devant une annonce qui offrait comme une occasion superbe, par suite d'une liquidation de famille, une dot de 18 000 francs et une orpheline. Il resta pensif. Le mot « pressé » qui figurait entre parenthèses au bas de cette réclame déroula devant lui des perspectives infinies d'ordures. Il y vit de courtes échéances d'accouchement, des ventres grossis après un mois de mariage. Il songea au déboire qu'éprouverait avec cette orpheline l'honnête Benet qui se laisserait happer. Celui-là avait des chances d'épouser une vierge qui aurait longuement turpidé dans son bas âge. Et il pensait. C'était déjà si difficile de n'être pas berné quand on connaît la famille et que l'on a vécu pendant des mois avec sa fiancée. Mais qui aurait jamais pu croire que sa femme à lui l'aurait trompé? Une fois de plus, il était revenu au point de départ de ses pensées, aux misères de son ménage. Il voulut à tout prix secouer ses souvenirs. Il se contraignait maintenant à regarder ses voisins, à les écouter. Un fossé aigu lui vrillait l'oreille. Le coiffeur était parti, sans même qu'il s'en fût aperçu. Un monsieur qui avait au-dessus d'une barbe rouge un nez barré par des lunettes d'or s'était installé à sa place, et il expliquait à un tout jeune homme le mystère des dents. Celui-ci écarquillait les yeux, l'écoutait dévotement, voulant sans doute s'établir dans cette partie. « Le plus cher, clair de votre recette, disait le monsieur, c'est la pose des fausses dents. Oh, elle se fabrique en Angleterre et se vend au passage Choiseul. Là, oh, il y a un sérieux bénéfice, pensez donc. Vous pouvez demander 10 francs par dent, et cela coûte 10 sous, 100 bouts de gencive en caoutchouc et 1 franc avec gencive. » Et il y en a des roses et des brunes, n'est-ce pas ? Interrompit timidement le jeune homme, Moi, j'aimerais mieux les roses. Tiens, vous n'êtes pas beaux. Les brunes sont des gencives de pauvres. Elles valent moins cher, mais l'on en vend plus, repartit l'autre. Le jeune adepte en bâillait d'étonnement. Et les dentiers en hippopotame ? Hasarda-t-il. L'homme aux lunettes dort, leva les bras au ciel. Oh, ça, c'est de la sculpture, songez donc. Il faut tailler la dent en plein ivoire. Mettre des montures d'or, cela coûte des prix fous. Et il continuait à expliquer la cuisine de son métier. Avouait pour affiquer sur les chicots de ses malades d'inutiles opérations et profiter de l'abasourdissement douloureux où ces gens se trouvaient pour leur vendre à haut prix ses dentifrices. André pensa que c'était trop subir d'affligeantes révélations. Son oseille était mangée. Il insista furieusement pour avoir sa note, refusa de commander un dessert, paya la somme de 1 franc 40 centimes, et il ouvrait la porte quand, du fond de la salle où quelques gens s'éternisaient devant les petits verres, une voix convaincue dit simplement « Bon, les femmes, c'est de bien pas grand-chose !» André ferma la porte, songeant avec une certaine mélancolie que dans tout l'insipide bavardage qu'il avait entendu, cette pensée était peut-être la seule qui fut profonde et qui fut vraie.